magasin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. L'école à la radio. Aujourd'hui, nous retrouvons l'enseignant Adama Keïta à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Il vous a préparé de petits problèmes de mathématiques, histoire de garder l'esprit vif avant le week-end. Ensuite, l'histoire, Yassir Lachance, de Halima Hamdan, raconté par Héloïse Oria. Et enfin, les conseils de Joël Alarcon, psychopédagogue, ou comment s'adapter quand les enfants apprennent de manière différente. L'émission est réalisée chaque jour avec l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita et moi-même. Et bien sûr, vos réactions, vos questions indispensables. Le compte WhatsApp, c'est le 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. On est ensemble.
Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins sur RFI.
Et les messages des voisins et des voisines. Chez nous, ça commence à 4 ans, l'auditoire de RFI.
Salut 7 milliards de voisins. Je m'appelle Ramada Diallo. Je habite à Nashkot, à Mauritanie. Je vous adore. Merci 7 milliards de voisins. Bye bye.
Bonjour 7 milliards de voisins. Je m'appelle Esther Jennifer Ada. J'ai 8 ans. J'appelle de Cotonou au Bénin. Grâce au professeur Adama Keïta, j'ai appris à enrichir mon champ lexical et partant, j'améliore mon niveau en français. Merci à 7 milliards de voisins et à tonton Adama Keïta.
Et bravo à toi Esther d'améliorer ton champ lexical. C'est pas bien les parents ou les tantes d'écrire les messages des enfants derrière leur épaule. Mais en tout cas, c'est bien quand même. Une voisine adulte rebondit sur la chronique de Joël Alarcon la semaine dernière et qui va nous rejoindre en fin d'émission.
Bonjour tout le monde. Je suis Saoul de Madagascar. J'ai écouté la mission aujourd'hui et j'apprécie beaucoup la technique basée sur la recherche des qualités des personnes qui nous inspirent. Et je crois que nous-mêmes, en tant que parents, peut faire cet exercice pour nous remonter un peu le moral, aller de l'avant et encourager soi-même. Merci à toute l'équipe. Je vous aime tous.
Merci à vous, Saoli. Comment mieux se connaître en désignant les personnes qui nous inspirent dans la vie? C'était le sujet de la chronique de Joël Alarcon. C'est-à-dire que les qualités de ceux que nous admirons sont souvent des qualités que nous avons nous-mêmes qui ont besoin d'être révélées. Voilà, il faut y penser. Regardez bien autour de vous les personnes que vous admirez, célèbres ou pas d'ailleurs, dans votre cercle familial tout simplement. Un message d'Ali qui nous poste, qui est en France mais qui est comorien. Je fais un cursus en sciences de l'éducation à l'université Paris Descartes et chez moi aux Comores, j'assume la formation des instituteurs en poste et l'émission me permet de me perfectionner. Arsène qui est à Sahar, au sud du Tchad. Je suis enseignant, séduit par la qualité des enseignants. Depuis, eh bien, j'encourage les enfants à suivre l'émission et puis on essaye tous ensemble de mettre en pratique les exercices et ils en sont très contents. Murtala est dans la région de Kaolack au Sénégal. Mention spéciale aux techniciens. Ça c'est pour Nicolas Benita et Romain Dubrac qui réalisent cette émission. Le fond sonore qui accompagne le conte est formidable et donne vie au récit. Mais tant mieux si vous avez bien reconnu aussi, c'est ce qu'on appelle la mise en onde et c'est ce qui permet effectivement, de se propulser en imagination au cœur d'une histoire. Maristella à Yaoundé, au Cameroun. Merci Monsieur Keïta, magnifique avec les expressions « amont » et « aval » pour les tout-petits. Voilà, et bien sûr, vous continuez de poster au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, Adama Keïta vous rejoint, les enfants, au programme des mathématiques et des problèmes.
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
Et l'enseignant du jour à l'école à la radio, c'est Adama Keïta, basé à Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. Bonjour Adama Keïta.
Bonjour Emmanuel, comment allez-vous ?
Très bien, on est ravis de vous retrouver pour l'école à la radio. Vous avez été longtemps créé à la main enseignant et puis vous êtes aujourd'hui devenu conseiller pédagogique, formateur d'enseignants. Et aujourd'hui, vous nous proposez une séquence sur des mathématiques.
Oui, bien sûr. La séquence d'aujourd'hui que je vous propose va se rapporter au nombre de 100 à 1000. De 100 à 1000, c'est une séance qui se fait en cours élémentaire.
Voilà, donc les premières classes du cours élémentaire. Mais attention, les grands, ce n'est pas le moment de bâiller parce que Adama Keïta vous a réservé un petit exercice nettement plus difficile pour les plus grands, pour les CM. Hein. C'est ça, Adama hein ?
Tout à fait. Et ça va être en fin de séance.
Alors, il faut patienter un peu, mais c'est toujours bien de patienter, de réviser un peu quand même des choses parfois qu'on peut avoir oubliées. Par quoi on commence, Adama ?
D'abord, je voudrais dire que le titre de la présente séance sera d'amener les enfants à ranger correctement les nombres de 100 à 1000, puis à résoudre correctement des problèmes liés à ces nombres. Donc, on va, dans un premier temps, demander aux enfants, est-ce que vous pouvez me rappeler les nombres de 100 à 1000 en comptant de 100 en 100 ?
Alors, on commence 100, par 100, hein, on est d'accord.
Voilà, de 100 en 100, de 100 à 1000, voilà.
Alors, on va le faire tous ensemble avec les enfants. 100,
100
200, 300,
300,
400,
400, 500, 600,
700,
700,
800,
800,
900,
900
et 1000.
1000. Voilà.
Et donc on a bien remarqué qu'il n'y a que le premier chiffre qui change, sinon c'est toujours des zéros.
Tout à fait. À part 1000 qui prend deux zéros, parce qu'on passe dans les nombres à quatre chiffres.
C'est ça. Mais sinon, alors, on a bien le 100, c'est 1, 0, 0. 200, c'est 2, 0, 0. 300, c'est 3, 0, 0, etc.
C'est ça.
Alors jusque-là, tout va bien, ou presque.
Et maintenant, ce que nous allons faire, tous ces nombres que nous venons de citer et de numérer, nous allons essayer de les comparer. Vous savez, ce sont des nombres à trois chiffres. Avant 1000, c'est-à-dire de 100 à 900, nous avons des nombres à trois chiffres. Comment comparer des nombres à trois chiffres ? Il y a trois cas. Le premier cas, la différence se situe au niveau des unités. Donc, les dizaines et les centaines sont égales. Le deuxième cas, la différence se situe au niveau des dizaines, c'est-à-dire que les centaines et les unités sont identiques. Et puis le troisième cas, comment donc comparer très rapidement sans aller de la centaine jusqu'à l'unité.
Alors pour ça, il faut faire un tableau. On va proposer, les enfants, vous allez faire trois colonnes sur votre feuille de papier. Et en haut des trois colonnes, vous mettez un C pour les centaines, un D pour les dizaines et un U pour les unités. Et quand vous avez ces trois colonnes, avec le C, le D, le U, vous tirez un trait en haut, sous les lettres, et vous n'avez plus qu'à inscrire les nombres que va vous indiquer Adama Keïta. Et ça sera beaucoup plus facile de les comparer ensuite.
Voilà. Alors, premier cas que je vous propose, les enfants, il s'agira pour vous de comparer dans votre tableau les nombres 475 473.
Donc 475. Alors le 4 est dans la colonne des centaines, le 7 est dans la colonne des dizaines et le 5 est dans la colonne des unités. Et en dessous, vous avez 473, le 4 dans la colonne des centaines, le 7 dans la colonne des dizaines et le 3 dans la colonne des unités.
C'est exact. Alors, il faut retenir une chose, Emmanuel, c'est que quand on compare des nombres de trois chiffres, il faut toujours commencer la comparaison par les centaines. Donc, la comparaison se fera de la gauche vers la droite.
Alors là, c'est facile. Hein. Les centaines, c'est la même chose, c'est un 4.
Oui.
Puisqu'on a bien dit 475, 473, pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de noter.
C'est ça. Alors, ici, les centaines et les dizaines sont égales. On a 4 pour 475, 4 pour 473. Au niveau des dizaines, nous avons 7 pour 475 et 7 pour 473. Donc, à ce niveau, on ne peut pas porter de jugement sur ces deux nombres. Donc, nous allons maintenant dans la dernière colonne, qui est celle des unités. 475 a pour unité 5 et 473, 3. Alors, il y a une différence. Quelle est cette différence, les enfants ? Donc, la différence se situe au niveau de l'unité 5. 5 est plus grand que 3.
Donc, 475 est plus grand que 473.
473, voilà. Et donc, pour rappeler ici, Emmanuel, quand la centaine, la dizaine sont égales, la comparaison se fera au niveau des unités. La différence va se situer au niveau des unités. C'est bien clair, les enfants ? Ok. Alors, la deuxième de comparaison que je vous propose, ce sont les nombres 485 et 432 qu'il va falloir inscrire dans votre tableau.
Alors, si vous êtes sur une ardoise, vous effacez les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure. Vous gardez bien vos colonnes avec le C pour centaine, D pour dizaine, U pour unité. Et une fois que vous avez effacé les chiffres, on remet les nouveaux chiffres.
485 et 432.
485, donc 4, 8, 5. Et 432, 4, 3, 2.
Et 2.
Donc vous mettez ces deux nombres l'un sous l'autre, à chaque fois dans, avec les chiffres dans la bonne colonne. Qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que ça n'a pas changé par rapport à l'autre exercice. On a bien des centaines qui sont identiques,
qui sont égales,
qui commencent toujours par le 4. Vous aimez bien les 4, hein, Adama ?
Continue, après les centaines, nous avons donc 8 pour 485, chiffre de dizaines, et 3 comme chiffre de dizaines pour 432. Alors déjà, il y a une différence. Lorsqu'il y a une différence, la comparaison doit prendre fin. Quelle est cette différence, les enfants ? On dira 8 de 485 est plus grand que 3 de 432. La comparaison s'arrête au niveau des dizaines dans ce cas d'espèce.
Voilà. Donc on ne regarde pas la dernière colonne.
Voilà, c'est fini. La comparaison s'arrête parce que la différence se fait entre 8 et 3. Voilà.
On en fait une dernière sur des comparaisons de grands nombres comme ça ?
Oui. Le dernier exercice que je vous propose, les enfants, il s'agira de comparer 872 et 259. 872 et 259. Alors, la technique est toujours la même. Il faut inscrire ces deux nombres dans votre tableau de numération. Donc, 872.
8, 7, 2 pour 872. Et pour 259, 2, 5, 9.
Très bien. Alors, la même technique de comparaison, on va toujours commencer de la gauche vers à droite.
Donc, on commence par comparer le chiffre des centaines.
Exact.
Oula, alors là, il y a une grosse différence, Adama. Moi, je vois un 8 et je vois un 2.
Très, très visible. Donc là, du coup, au niveau des centaines, la comparaison s'arrête. Et pourquoi ? Parce que 8... chiffre des centaines de 872 est plus grand que 2 chiffres des centaines de 259. Conclusion, les enfants, 872 est plus grand que 259. Donc ici, ce que nous pouvons retenir, Emmanuel et les enfants en parlant, retenez que pour comparer deux nombres de trois chiffres, on commence par des centaines. Dès lors que la différence se fait au niveau des centaines, la comparaison s'arrête. Voilà.
Adama Keïta, vous allez nous proposer d'autres nombres comme ça, des grands nombres qui sont difficiles à comparer pour les élèves en primaire, en CE1 et en CE2. Vous allez les noter, oui, les enfants, et puis vous allez les comparer plus tard, d'accord? Après l'émission, et d'accord, comme ça, nous, on pourra passer à une autre activité avec le maître Adama Keïta. Alors, je vais donner les nombres proposés par Adama Keïta. Vous allez comparer 736. 7, 3, 6. Vous allez comparer avec 689. 6, 8, 9. Je répète, 736 et 689. Autre proposition de comparaison, vous allez comparer 632 et 633. 632, 6, 3, 2 et 633, 6, 3, 3. Alors voilà, on va vous laisser faire ça après l'émission, Adama Keïta, parce que je voudrais qu'on garde un peu de temps pour un exercice, vous l'avez promis, pour les plus grands. Il s'agit, alors là, il ne s'agit plus de classer, de comparer des nombres, mais on remet un pied dans la géométrie, ça plaît beaucoup d'ailleurs aux élèves, parce qu'on a fait plusieurs leçons de géométrie avec d'autres enseignants également, et vous proposer un problème de géométrie pour les CM1, CM2.
Ce problème de géométrie, il est ainsi libellé pour les grands élèves de CM2. Le jardin de ton école a pour périmètre 48 mètres. Sa largeur mesure la moitié de sa longueur. Quelles sont les mesures des côtés de ce jardin? Je reprends, Emmanuel. Le jardin de ton école a pour périmètre 48 mètres. Sa largeur mesure la moitié de sa longueur. Quelles sont les mesures des côtés de ce jardin? Alors, les enfants, pour résoudre ce problème, qu'allez-vous faire? Il faut d'abord trouver les informations qui vont vous permettre d'aller à la résolution du problème. Tracez donc deux tableaux sur votre feuille de papier. D'un côté, vous allez recenser les informations que vous savez du problème. Et de l'autre côté, vous allez mettre les interrogations, ce qu'on vous demande de trouver.
Donc on va représenter le jardin, c'est ça? On va faire un rectangle ou un carré, c'est ça, Adama, que vous demandez aux enfants?
Voilà, voilà. Hein? Voilà, je demande aux enfants donc de dessiner un rectangle de 10 mètres de long et de 5 mètres de large sur leur feuille de papier.
Oui.
Un rectangle de 10 mètres de long et de 5 mètres de large.
D'accord, alors ils peuvent faire avec les carreaux du cahier, hein. On peut compter 10 carreaux, voilà, pour un côté.
Voilà, et 5 carreaux pour la largeur.
Voilà. Donc,
mais quelles sont les informations que nous savons sur le problème? On sait que la longueur fait deux fois la largeur. Alors, nous allons segmenter, fractionner la longueur en deux petits segments de longueur égale. Mmh. Voilà. Puisque la longueur fait deux fois la largeur. Donc, nous avons un rectangle de 10 cm de long. Alors, la moitié, ça va être 5 cm. La moitié de 10, c'est 5 cm.
Exact. Et donc, on se retrouve, voilà. Une fois qu'on a coupé ce rectangle en deux, on a bien deux carrés côte à côte.
Oh, deux carrés. Maintenant, chaque côté carré va correspondre à la largeur du rectangle. Chaque côté des deux carrés va correspondre à la largeur du rectangle. Alors, donc, quand on calcule le nombre total de largeur que nous avons sur le périmètre du rectangle, on obtient 6 fois la largeur comme périmètre du rectangle sur le schéma. Mmh. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Et tout ça, ça doit nous donner le périmètre total que vous nous avez indiqué au début du problème, 40, c'est bien ça?
48 mètres. Voilà. Alors, 48 mètres, donc, correspondent à 6 fois la largeur. Donc, une fois la largeur correspondra à 48 mètres divisé par 6. Et vous comprenez, les enfants?
Voilà. Et si on connaît sa table de multiplication, 6 fois quelque chose donne 48. 6 fois 8, 48.
Exact. Donc, la largeur du rectangle sera de 8 mètres. 8 mètres.
C'est ça. Donc, le rectangle, il fait bien 8 mètres de côté par 48 mètres de périmètre.
Voilà, 48 mètres de périmètre et 8 mètres de large.
De large.
Maintenant,
exact.
Ce que nous savons encore du problème, c'est que la largeur mesure la moitié de la longueur. Et si on raisonne dans le sens inverse, on dira que la longueur est le double
de la largeur.
Exact. Maintenant que nous avons la largeur
8 mètres,
qui fait 8 mètres, si la longueur est le double de la largeur, alors la longueur sera de
16 mètres.
Très bien.
Donc, et on a deux longueurs, hein, dans un rectangle, il y a forcément deux longueurs. Donc,
voilà. 2 fois 16 plus 2 fois 8, nous retrouvons nos 48 mètres de périmètre.
Voilà. Alors, donc, vous pouvez inscrire sur le rectangle, hein, 16 pour la longueur, 8 pour les côtés. Et donc, effectivement, vous allez voir 2 fois 16 pour les deux longueurs, 2 fois 8 pour les deux largeurs. Et au total, ça fait bien 48 mètres.
Les 40. Voilà. Et nous pouvons vérifier. On dira, puisqu'on dit que le périmètre du rectangle est égal 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. 2 fois la longueur, ça fera 2 fois 16, 32 mètres, plus 2 fois 8, 16 mètres. 32 plus 16 font bien 48 mètres. Les longueurs que nous avons trouvées sont très justes. Alors les enfants, vous pouvez continuer à vous exercer dans ce type d'exercice. Ici, ce qu'on peut retenir, c'est la notion de moitié et de double. La notion de moitié et de double. Mmh. Si on dit la largeur est la moitié de la longueur, dans le sens inverse, on dira que la longueur est le double de la largeur.
Donc dans un cas, la moitié, on enlève, hein, on cherche quelque chose de plus petit. Et dans l'autre cas, quand vous dites le double, Adama Keïta, nous, on doit penser que c'est plus grand, on ajoute.
C'est on multiplie ou on ajoute.
Exactement.
Voilà, voilà, on multiplie ou on ajoute.
Eh bien, on s'est bien creusé la tête avec ce problème de périmètre pour trouver les côtés du jardin de l'école. Merci, merci beaucoup, Adama Keïta. La prochaine fois, vous nous proposerez comme ça un autre exercice pour les plus grands. Comme ça, on a un peu tous les niveaux qui sont proposés. Reste à vous souhaiter une bonne journée à Boaké.
Merci, Emmanuel.
Et puis, bien sûr, on reste en contact. Vous restez à l'écoute et vous n'hésitez pas à nous proposer d'autres petits casse-têtes ou pourquoi pas des activités autour du langage ou de la découverte du monde. Merci à vous, merci. Adama Keïta. Bonne journée.
Merci, Emmanuel. Merci, au revoir.
Dans quelques instants, 7 milliards de voisins, l'école à la radio, l'histoire du jour racontée par Héloïse Oria. Mais tout de suite, allez, on va se remuer un petit peu et on va danser.
Stéphane le gars, let's get it. On fait le boom tchak tchak boom tchak tchak. Je réponds même plus à leurs messages. Paris à Lomé, je suis dans les bacs. Je danse. Koshi a de la maille, j'ai charbonné, c'est sûr ça va payer. Tout est gratuit, faut même pas payer. Tu commences, tu vas jamais t'arrêter. Allez, 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 on fait le chakou chakou. Allez, guara guara. Je suis le prince du Togo. Donc c'est Kweta Kweta. Let's get it. Où sont mes Français? La famille m'est togolais. Les autres, je les ai ambiancés. Soit tu te casses ou viens danser. Non mais t'inquiète pas ma bella. Quand ton mec n'est pas là. Non mais t'inquiète pas ma bella. Je serai là pour toi. Vida loca. Elle veut la vida loca. Vida loca. Déposé dans le carré, j'ai pas triché, on a mérité. Je fais ça, ça fait des années. T'es venu t'asseoir, t'aurais dû rester. Poto, poto, réveille-toi là, tu fais dodo. Poto, poto, t'es resté bloqué dans la. Non mais t'inquiète pas ma bella, quand ton mec n'est pas là. Non mais t'inquiète pas ma bella, je serai là pour toi, vida loca.
Vida Loca, Stéphane Le Gar, chez 7 milliards de voisins. Vous écoutez l'école à la radio, nous sommes bien sur RFI. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Héloïse Auria qui raconte Yassir la chance, écrit par Omar Sylla. Et c'est publié d'ailleurs dans un recueil, Yassir la chance et autres contes marocains aux éditions Didier Jeunesse.
Je vais inventer une histoire.
Il était une fois
Yassir la chance. Un conte écrit par Halima Hamdan. Il était une fois, il y avait partout à la fois du lys et du basilic. Et il y avait Dawiya, la rayonnante. Dawiya était mariée à Yassir. Dawiya et Yassir vivaient dans un petit village au sud du Maroc. Ils n'étaient pas riches. Ils possédaient un petit champ caillouteux où ils travaillaient du matin au soir. Quand la récolte était bonne, ils en vendaient une partie au souk pour acheter ce dont ils avaient besoin. De l'huile, quelques épices et surtout du sucre et du thé vert. Ils aimaient tous les deux le thé à la menthe fraîche. Ils en buvaient le matin au réveil et l'après-midi après le travail. Chaque matin, Dawiya éclatait de rire en se réveillant. Elle tendait les paumes de ses mains vers le ciel en disant « Merci mon Dieu pour ce cadeau. Il s'ajoute à tous ceux que tu m'as donnés depuis le jour de ma naissance. » Un matin, Daouia lança comme d'habitude son rituel. « Merci, mon Dieu, pour ce cadeau !» Yassir s'écria. « Arrête de parler de cadeau. C'est plutôt un fardeau. Nous n'avons plus rien. Walou, pas un grain de blé, pas un sou. » Quand il n'y a plus rien, c'est le moment de sortir son bien, répondit Daouia en souriant malicieusement. Tu parles avec des énigmes, ma femme. Je ne comprends rien. Je pense qu'il est temps de sortir le trésor des femmes. Quel trésor ? Tu perds la tête ! Cria Yassir. Daouia se dirigea vers son coffre à vêtements. Elle fouilla et puis revint les yeux brillants, tenant à la main une petite bourse. Elle l'ouvrit délicatement et en montra le contenu à Yassir. « Voici le trésor dont je t'ai parlé. 7 bracelets en or que ma mère m'a confiés le jour de notre mariage. Elle m'a dit de les garder précieusement pour les moments difficiles de la vie. Demain, c'est jour de marché. Tu y vendras les bracelets et tu achèteras 7 moutons. Nous les engraisserons quelques jours et puis nous les revendrons avec un bon bénéfice. » Le lendemain, Yassir quitta la maison à l'aube. Arrivé au souk, il vendit les bracelets au bijoutier qui lui en proposait le meilleur prix. Ensuite, il se dirigea vers le marché aux bestiaux où il marchanda tellement bien qu'il quitta le souk avec 10 moutons. Il était très content de son exploit et avait hâte de rentrer pour tout raconter à Daouia. Or, c'était une journée de canicule. Les moutons avançaient péniblement. Soudain, celui qui était en tête s'arrêta à l'ombre d'un arbre et se coucha sur le flanc. Les uns après les autres, tous les moutons s'étalèrent sur le chemin. Yassir, furieux, cria « Levez-vous, fainéant ! Je suis pressé ! Je veux rentrer chez moi !» Yassir courait d'un mouton à l'autre, essayant de les remettre sur leurs pattes, en vain. Un homme du village, qui revenait lui aussi du souk, lui dit que les moutons avaient tout simplement trop chaud. Il lui conseilla de se reposer en attendant. « Il n'en est pas question. Je n'ai aucune envie de faire la sieste, moi. Je suis pressée. Je veux rentrer chez moi. » « Dis, toi aussi tu reviens du souk. Qu'est-ce que tu as acheté ?»«
Oh, tu sais, je n'ai pu acheter que 7 petites chèvres. »
« Et je constate qu'elle gambade tranquillement sans craindre la chaleur, » répondit Yassir. « Tu es plus intelligent que moi, voisin. »« Ah, si j'avais su, ce sont des chèvres que j'aurais achetées. »
Tu sais, Yassir, je ne suis pas pressé. Si tu veux, on échange. Mais comme tu vois, je n'ai que 7 petites chèvres.
Tu es un homme bon. Merci beaucoup. Yassir partit avec les chèvres qui avançaient en sautillant sur le chemin bordé d'arganiers. Or, les chèvres marocaines raffolent des feuilles de cet arbre. En moins de 2, les petites chèvres grimpèrent pour brouter les pousses tendres. Furieux, Yassir leur lança des pierres en criant « Descendez maintenant ! Je suis pressé, je veux rentrer chez moi !» Un homme s'approcha de Yassir.
« Bonjour ! Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Ce sont les chèvres, là, dans l'arganier.
Dès qu'elles se seront régalées, elles descendront et tu pourras repartir tranquillement.
Mais je ne peux pas attendre la fin de leur festin. Ma femme m'attend.
La mienne aussi m'attend. Et elle va être furieuse. Je me suis fait avoir au souk. J'ai acheté cet âne que tu vois là et j'ai découvert en chemin qu'il était boiteux.
Mais il avance sans problème, ton âne. Il n'est ni terrassé par la chaleur, ni tenté par les arganiers. Ah ! Si j'avais su, j'aurais acheté un âne, même boiteux, se lamenta Yassir.
Je ne suis pas pressé. Si tu veux, on échange.
Tu es un homme bon. Merci beaucoup. Yassir et son âne trottaient tranquillement quand tout à coup, ce dernier s'arrêta, sans raison. « Marche, bourrique !» hurla Yassir. Un jeune homme qui revenait lui aussi du souk l'interpella.
« Bonjour, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»«
C'est mon âne. »«
Le pauvre, laisse-le souffler. » »«
Je vois que tu n'as rien acheté au souk. Tu siffles les mains dans les poches. Tu ne connais pas les difficultés de celui qui achète une bête. »«
Tu me vexes quand tu dis que je n'ai rien acheté au souk. » « Regarde comme ce chapeau rouge est joli !»«
Toi, » dit Yassir, « tu es l'homme le plus intelligent du village. Tu as acheté un tarbouche. C'est toi le maître. Tu peux le poser sur ta tête, le retirer, le jeter ou même le piétiner. Tu es seul à décider.
Ah, si j'avais su, c'est un tarbouche que j'aurais acheté.
Si tu veux, je suis prêt à te le vendre,
répondit l'homme. Je n'ai que cette âne.
D'accord.
Oh, tu es un homme bon. Merci beaucoup.
Yassir posa le tarbouche sur sa tête et hâta le pas. Il arriva bientôt à l'entrée du village où se trouve le puits. Comme il avait très soif, il se baissa pour boire et le tarbouche tomba au fond du puits. Yassir s'assit par terre et pleura en se lamentant sur son sort. Trois hommes s'approchèrent du puits. Parmi eux, Yassir reconnut le marchand qui lui avait vendu les moutons.
« Où sont tes moutons ?
Ne m'en parle pas. J'ai échangé ces paresseux contre sept petites chèvres. »
Le deuxième homme dit.
« Et où sont tes chèvres ?
Je les ai échangées contre un âne. »«
Et où est ton âne ?
Oh, il était boiteux et têtu. Je l'ai troqué contre un beau tarbouche que j'ai bêtement fait tomber dans le puits. »
Les trois hommes s'exclamèrent alors d'une même voix.
« Oh là 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 là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»«
Je vais rentrer chez moi. Ma femme m'attend. »«
Le malheureux, sauve-toi le plus loin possible !»
s'écria le premier homme.
« N'oublie pas que tu as perdu la fortune de ta femme. Elle va te tuer !»
dit le deuxième homme.
« Quitte le village, va-t'en le plus loin possible. Fais-nous confiance, nous connaissons bien les femmes !»
s'écrièrent les trois hommes. « Ma femme aime tout ce que je fais. Elle ne me fera aucun reproche. » répondit tranquillement Yassir.
« Ce n'est pas possible. Nous allons t'accompagner et nous t'écouterons raconter tes mésaventures à ta femme. Si elle t'accueille les bras ouverts, nous te donnerons la moitié de notre argent. Mais si elle t'insulte ou lève la main sur toi, tu devras travailler un mois pour chacun d'entre nous.
D'accord. » Yassir et les trois marchands arrivèrent devant la maison. Dawiya était assise sur le seuil.
Ah, te voilà enfin, mon cher mari. Alors, ce souk ?
C'était bien. J'ai très bien vendu ton trésor. 10 moutons.
J'en suis heureuse, mon homme. Avant de les vendre, je récupérerai la laine, je la tisserai pour en faire des couvertures, un tapis et une belle djellaba pour toi. Où sont tes moutons ?
À la sortie du souk, ils se sont vautrés dans l'herbe. Aucun ne voulait se lever. Alors, je les ai échangés contre 7 petites chèvres.
C'est bien ! Le poil de la chèvre est très solide. Je le récupérerai pour te tisser une belle cape et j'adore le fromage. Où sont les chèvres ?
Elles sont restées perchées sur un arganier. Et comme j'étais pressée de rentrer, je les ai échangées contre un âne boiteux.
Un âne restera toujours un âne, qu'il boite ou pas. Il nous aidera pour le travail au champ et pour porter les charges lourdes. Où est ton âne, mon chéri ?
Il était buté comme pas un. Je l'ai troqué contre un beau tarbouche rouge.
Oh, mets-le vite ! Il doit aller à ravir.
Hélas, je me suis penchée pour boire au puits. Il a glissé et il est tombé au fond.
Dieu merci, Dieu merci !
S'écria Dawiya.
Le chapeau est au fond du puits, mais toi, tu es là, sain et sauf. C'est tout ce que je veux.
Les trois marchands ont mis leurs mains à leur poche et ont donné la moitié de leur argent à Yassir. C'était une belle somme. À partir de ce jour, on appela notre homme, Yassir, la chance.
Réalisation Romain Dubrac avec la voix d'Héloïse Oria pour ce conte d'inspiration marocaine. Yassir la chance a été publié et écrit par Omar Silla et le livre dont est extrait ce conte, c'est Yassir la chance et autres contes marocains édité chez Didier Jeunesse.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Et comme chaque semaine, nous retrouvons Joël Alarcon pour des conseils aux parents et aux éducateurs. Bonjour Joël.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychopédagogue. La semaine dernière, vous nous avez proposé, je veux dire, un jeu assez singulier à faire en famille. Chaque enfant devait raconter quel était le personnage qui l'inspirait, qui suscitait son admiration. Il devait donner les raisons avec les adjectifs qui correspondent bien à ce personnage, que ce soit une personne célèbre ou proche de soi. Et vous nous avez dit, la prochaine fois, il y aura une révélation. Donc on aimerait bien comprendre quel était le but du jeu où chacun devait donner un personnage qui l'inspire.
Voilà, donc le jeu, effectivement, c'était de décrire le nom du personnage et puis de décrire ses qualités.
Oui.
Et en fait, ce que je voulais vous amener à découvrir, c'est que toutes ces qualités que vous avez sous les yeux qui concernent ce personnage, en fait, elles ne parlent que de vous. Elles ne parlent que de vous parce que nous avons des neurones miroirs. Neurones miroirs qui viennent d'être découvertes, notamment dans le cadre des recherches sur les neurosciences dont on parlait la semaine dernière. Et elles nous ont montré que le cerveau ne peut reconnaître des qualités chez quelqu'un uniquement s'il les possède lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'une même personne, un même personnage d'ailleurs, peut être décrit de façon très différente en fonction de qui le décrit. Parce que ça va faire écho à des choses qui ne feront pas écho chez vous. Donc, toutes ces qualités que vous avez sous les yeux parlent de vous. Et si vous êtes surpris ou un peu dubitatif, demandez à vos proches qui vous connaissent bien et vous verrez que vous risquez d'être surpris. Vous pouvez même vous amuser à dire « Bon, alors, je vais prendre chaque qualité, je vais essayer de trouver un moment dans ma vie où j'ai fait preuve de cette qualité. » Et ouais. Vous allez voir que ça va venir tout seul.
Ouais, mais alors, attendez, là, je me mets à la place de certaines voisines. Je ne sais pas qui, par exemple, admire, allez, disons, Michelle Obama. Hein, la grande
oui.
Michelle Obama. Là,
oui.
Vous êtes en train de dire « Non, mais vous aussi, vous avez les mêmes qualités que Michelle Obama. » Et on va dire « Mais non, on ne lui arrive pas à la cheville quand même. »
Alors les qualités, par exemple, ça dépend de ce qui a été marqué. C'est-à-dire que si la qualité, ça avait été, par exemple, la prestance ou l'intelligence, peut-être l'humilité, je ne sais pas ce qui aurait pu être marqué, parce qu'en fonction de chacun, on va voir des choses différentes. Et il ne s'agit pas de se dire qu'on est elle. Par contre, ces qualités-là, vous les avez aussi. Et appuyez-vous sur les événements de votre vie et les moments de votre vie, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup de moments où vous faites preuve d'humilité,
oui.
Où effectivement, vos proches vont dire « Ah ben oui, toi, tu as de la présence, c'est vrai, etc. »
Ça veut dire que finalement, il faut s'appuyer sur nos évocations mentales.
Alors, les évocations mentales, effectivement, ça nous montre vraiment que, chaque cerveau est unique. Ce petit jeu le montre bien aussi, parce qu'en fonction de qui va décrire qui, on va être sur des choses très différentes. Et un petit jeu encore, Emmanuel, si je vous dis le mot chocolat, quelle est votre toute première pensée ?
C'était pas le mot qu'il fallait dire pour moi, parce que je suis chocolat maniaque, donc je vais dire quelque chose qui fond dans la bouche, très foncé, j'aime le chocolat avec des petits grains de cacao, j'ai découvert ça d'ailleurs en mangeant du chocolat à Abidjan. Voilà, ça évoque beaucoup de choses pour moi, stimulant et calmant en même temps.
D'accord. Et là, on avait presque la sensation que vous le sentez dans votre bouche
ah oui.
Et ça a aussi évoqué un souvenir. C'est intéressant parce que moi, par exemple, quand on me dit chocolat, on peut me dire aussi parapluie, je vois le mot chocolat écrit, en fait, ou le mot parapluie.
Rien
écrit.
D'autre. Pas de sensation dans la bouche.
Non, pas de sensation dans la bouche.
Vous voyez comme nous sommes différentes, finalement.
Oui. Et alors, imaginez-vous au niveau d'une classe entière, parce qu'en fait, chaque être humain fait exister ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il sent dans sa tête de façon différente. Donc, ce n'est pas parce que moi, je suis en train de vous parler de certaines choses que tout le monde va se les représenter de la même manière. Alors, comment imaginer qu'une même consigne ou une même leçon soit comprise et mentalisée de la même façon par toute une classe ? On ne s'est jamais posé la question. Parce qu'effectivement, quand on parle, ils entendent, mais chacun a un monde différent dans sa tête. Donc un monde qui se crée en images, qui se crée en sons, qui se crée aussi en sensations, en souvenirs. Et on a une dominante. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, mais on a une dominante. Et vous voyez très bien que moi, ma dominante, par exemple, c'est le verbal auditif. Parce que je vois les mots écrits, je peux même les réentendre. Par contre, je n'ai pas d'image.
C'est ça. Alors que moi, j'ai des sensations dans le palais, on va dire. Alors, conseil aux parents et aux enseignants, quand on veut transmettre une connaissance à un enfant, comment faut-il faire ? Il faut essayer de se mettre à la place de son cerveau ?
Alors non, parce que c'est très difficile. Et puis, vous n'êtes pas outillé pour faire, entre guillemets, le travail de dialogue pédagogique qui va permettre à l'enfant de prendre conscience de quelle façon la réalité se crée. Ce n'est pas possible. Par contre, de vous dire déjà, que vous avez votre propre façon de faire exister le monde dans votre tête et qu'en fait, vous allez enseigner à partir de ça sans même vous en rendre compte. Quelqu'un qui va être est une dominante très visuelle, va, sans s'en rendre compte, toujours imager ses propos. Sauf que les enfants dans la classe qui ne sont pas du tout là-dedans, eh ben, ils vont être un peu largués. Mmh. Donc, l'idée, c'est de multiplier les modes de transmission pour essayer d'aller toucher tous les petits cerveaux. Donc, dire une consigne, et puis l'écrire, comme ça on touche les auditifs, puis ensuite les visuels. Et puis on peut même la faire reformuler par des élèves, comme ça on touche aussi les verbaux. Et ça permet vraiment aux enfants de se créer leurs propres images mentales et de favoriser ce temps de création. Parce qu'en fait, ce qui fait que l'on apprend, c'est parce qu'à un moment donné, ce que l'on entend ou ce que l'on voit existe dans notre tête. Et je reviens aux maths. Les maths sont une histoire d'image mentale. Quand on a très peu d'image mentale, souvent, on a des difficultés en maths, alors que si on les stimule, les images mentales, on a beaucoup moins de difficultés.
Par exemple, pour avoir le sens des proportions, des quantités, de ce qui se transmet d'un groupe à l'autre, l'addition, la soustraction, comment les objets bougent, etc.
Exactement. Et même un problème, si on lit un problème uniquement en mettant des mots les uns derrière les autres et en faisant une opération, ça peut être vraiment très abstrait, très compliqué. Alors que si on laisse le temps, à la fin de la lecture de la consigne, à l'enfant de dire ce problème, comment il existe dans ta tête là, comment tu te le représentes, et ben, il y a des enfants qui vont vous dire oh, ben, j'imagine que le fermier qui a 10 œufs, machin, bidule, et il va vous raconter. Et il y en a un autre qui va dire ben, moi je vois, je revois le problème dans ma tête et en fait ça va. Et d'avoir ces quelques minutes ne sont pas.
C'est ça, avant même de commencer à calculer et à réfléchir en termes mathématiques. Et effectivement, vous avez raison, parce que Gérard Sans Faute, qui nous fait des petits problèmes mathématiques bien corsés parfois dans cette émission, commence toujours par, une fois qu'il a lu l'énoncé, par dire alors quelle est l'histoire du problème.
Exactement.
Et il laisse toujours un peu de temps aux enfants de romancer un peu le problème dans leur tête. Ça n'est pas donc du temps perdu.
Oh non, c'est du temps pour vraiment faire vivre ce que l'on vient de lire dans son esprit. Et donc certains vont raconter une histoire, d'autres vont y mettre des images. Et ça va permettre vraiment de créer de l'image mentale. Et l'évocation mentale, c'est la base de l'attention, la base de l'imagination, de la compréhension, de la réflexion et de la mémorisation. Donc c'est fondamental.
Et bien sûr, l'étape d'après, c'est de reprendre les informations indispensables pour résoudre un problème, pour écrire un texte, pour faire un exercice de grammaire. L'un n'empêche pas l'autre.
Exactement. Cette façon d'aborder l'apprentissage s'appelle, en fonction des pays, soit de la gestion mentale, soit la pédagogie des moyens d'apprendre. Et ce sont les travaux d'Antoine de la Garanderie, qui est un grand pédagogue et un grand philosophe, qui a vraiment mis en évidence le fait que l'on ne peut pas apprendre si on ne se rend pas compte qu'il y a une différence entre ce que l'on perçoit de l'extérieur et la façon dont on se le crée à l'intérieur.
Eh bien, merci beaucoup Joëlle Alarcon pour tous ces conseils. Pour aller plus loin, d'ailleurs, on peut lire les travaux ou regarder des vidéos sur YouTube d'Antoine de la Garanderie, ce pédagogue. Et quant à nous, les voisins et les voisines, on se retrouve lundi pour l'école à la radio et on mémorise bien tout ce que vous nous avez dit. En général, on commence la semaine en douceur avec du langage et viendront ensuite des jeux mathématiques, des jeux de logique. Et n'oubliez pas, évidemment, vous postez vos questions pour Joëlle Alarcon sur la façon de travailler avec les enfants au 33 1 84 22 71 71. Merci à vous, Joëlle Alarcon. Très bonne fin de semaine.
Au revoir.
Milliards de voisins, c'est fini.
RFI présente